Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Nous recevons dans ce studio Dr. Eric Ngango. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin traitant et assistant technique à Femmes Plus. Nous savons que plusieurs personnes hésitent à faire le dépistage par peur, peut-être, de connaître leur état sérologique. Pourtant, le fait de connaître vous permet d'accéder le plus tôt au traitement. Et quels sont, avec vous, on va un peu voir quels sont les avantages du dépistage volontaire.
Ok, merci bien. Ben, pour comme préalable, pour corroborer vos propos,
oui.
C'est-à-dire que sur le plan statistique, au niveau national, il n'y a que 5 à 7% des personnes qui ont eu accès au service de conseil dépistage volontaire. Ce qui fait que vous avez pratiquement...
C'est encore faible. Hein?
Très faible. Vous avez, oui, 92 à 95 personnes qui sont encore séro-ignorants. Alors, de ce fait, nous faisons un effort pour essayer d'amener un plus grand nombre au dépistage volontaire. Bon, qu'à cela ne tienne, il y a encore beaucoup de difficultés d'approvisionnement en intrants et tout ça, des tests,
oui,
pour amener justement ce grand nombre.
Mais est-ce qu'il y a déjà des centres un peu partout à travers la République?
L'effort est fait dans ce sens-là,
oui,
et beaucoup de centres de dépistage volontaire, communautaire surtout. Mais au niveau national, on met l'accent sur les centres de conseil de dépistage volontaire mobiles. Ce qui est plus facile, mais encore, il y a cette difficulté d'approvisionnement en intrants et tests pour justement dépister un grand nombre. Alors, pour revenir aux avantages du conseil de dépistage volontaire, au niveau national, le conseil de dépistage volontaire, c'est une stratégie majeure dans la prévention. Ce qui fait que une personne qui connaît son statut sérologique, c'est une personne qui va adopter un comportement responsable face à la pandémie. Et justement, par rapport à cela, une personne qui est séropositive va être prise en charge précocement. Donc le dépistage en soi nous permet justement de pouvoir limiter la transmission de l'infection à VIH et aussi de pouvoir prendre en charge précocement les personnes qui sont infectées par le VIH-SIDA. Voilà un peu.
Oui, mais le problème aussi, c'est cette peur qu'éprouvent certaines personnes quand on dit qu'il faut aller se faire dépister. Ah, la lignée d'Angaté, je préfère rester séro-ignorant parce que la personne a peur de connaître la vérité. Peut-être qu'elle est déjà infectée. Bon, vous voyez comment arriver à maîtriser ou à dominer cette peur.
Oui, effectivement, parce que le dépistage au VIH-SIDA a une grande composante psychologique. Et justement, au niveau du centre de conseil dépistage volontaire, au niveau des femmes plus, nous faisons ce qu'on appelle le counseling, c'est-à-dire le conseil pré-test. Et pendant justement ces conseils pré-test, la personne est amenée, on informe la personne sur le VIH-SIDA, et puis on montre les avantages justement du dépistage au VIH-SIDA.
Oui.
Et de ce fait, bon, la personne a le choix, hein. C'est comme ça qu'on dit que c'est un dépistage volontaire. Donc il faudrait, au pré-test, avoir le consentement éclairé de la personne. Mais cela n'enlève en rien le caractère psychologique de l'examen en soi. Mais l'effort est fait au niveau du conseil pré-test pour amener la personne à se faire dépister.
Alors, pour que vous parlez du counseling, mais pour que ce counseling ait lieu, il faut que la personne arrive d'abord dans vos installations, vos bureaux.
C'est tout à fait normal parce que le premier travail à faire, c'est ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Il faudrait que les sensibilisations soient faites au niveau de la communauté, justement pour les amener à se faire dépister. Et c'est comme ça que les dépistages in situ au niveau de la communauté, c'est le dépistage qui donne le plus de résultats que le dépistage au niveau des CDV communautaires. C'est-à-dire, quand nous avons un maximum d'intrants et de tests, nous pouvons en dépister un grand nombre. Et là, donc le grand travail, c'est la mobilisation sociale. Donc lorsque la mobilisation sociale faillit, vous n'aurez pas un grand nombre de gens qui se feront dépister.
Nous avons en ligne, docteur, vous êtes suivi de partout à travers le pays. Les auditeurs appellent dans cette émission pour poser des questions. Nous avons par exemple en ligne Rachidi, il nous appelle depuis Kalemi au Katanga. Bonjour Rachidi.
Oui, bonjour monsieur Jody, bonjour à notre médecin, l'invité et tous les auditeurs.
Donc, vous
bonjour.
Oui, merci. Moi, ma question est celle-ci, parce que vous n'allez pas vous réveiller seulement certains matins, vous allez directement au centre de PNMLS pour vous faire dépister en soi. Il faut qu'il y ait une poussée quelque part. Alors, quels sont les signes qui méritent en faveur? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je veux un peu savoir quels sont les signes chez un enfant et quels sont les groupes à risque. C'est un peu ça.
Ok, merci bien, monsieur Rachidi. Comme vous le savez très bien, une personne vivant avec le VIH peut rester asymptomatique, c'est-à-dire sans développer des signes cliniques après l'infection de quelques mois à plusieurs années. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 15-20 ans. Donc, cette personne-là n'aura jamais à développer des signes qui vont plancher vers une infection VIH ou le sida lui-même. Donc, il faudrait se faire dépister pour justement savoir que nous sommes devant un cas d'infection en VIH. Dans le cas contraire, vous pouvez rester avec cette personne pendant 20 ans sans pour autant que vous ne sachiez que cette personne-là est infectée. Et c'est justement l'information que nous donnons pendant les mobilisations sociales et sensibilisations pour vous amener à vous faire dépister. Et comme ça, nous serons certains que nous sommes devant un cas d'infection en VIH.
Ouais. Il a parlé aussi des signes chez l'enfant. Je ne sais pas, les signes de la maladie peut-être.
Probablement, les signes cliniques chez l'enfant, c'est la même chose comme chez l'adulte. Hein. On a du mal et c'est comme ça que, généralement, vous avez des enfants qui sont nés des mères séropositives. Vous n'aurez pas des signes comme aussi chez l'adulte. Mmh. Donc, il faudrait nécessairement faire dépister l'enfant et comme ça, nous saurons que nous sommes devant un cas d'infection VIH-SIDA.
Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, docteur, qu'il y a un faible pourcentage des personnes qui s'y sont fait dépister. Vous avez parlé des 7%, je crois. Oui. C'est encore très faible. Peut-être qu'il faut encore beaucoup plus d'efforts du côté de la mobilisation sociale, la campagne de sensibilisation. Il faut encore mettre beaucoup de moyens et organiser beaucoup plus de campagnes dans les écoles, dans des lieux publics pour amener beaucoup plus de gens à venir se faire dépister.
Au-delà, en fait, de la mobilisation sociale, il y a également la disponibilisation des intrants, des tests. Oui. Pour justement faire, vous pouvez descendre dans un quartier, vous faites une mobilisation auprès de 2000 personnes, et de ces 2000 personnes, vous avez pratiquement la moitié qui sollicite se faire dépister, mais du moment où vous n'avez pas d'intrants, vous n'avez pas de tests, vous êtes bloqué. Donc c'est une difficulté pour nous.
Et
donc,
quels sont ces intrants en question?
Généralement, nous utilisons des tests rapides, ils sont au nombre de 3. Les tests de Termine, l'Unigold et les double check lorsqu'on en a, et d'autre part, il y a les Capillus ou Oraquick. Mais il faut encore que. En fait, l'effort doit être fait au niveau du gouvernement, bien sûr, dans la mobilisation des fonds au niveau des différents partenaires. Et il est déjà fait, mais il est encore insuffisant au moment où nous vous parlons.
Oui.
Mais nous allons continuer les plaidoyers dans ce sens-là pour qu'on puisse disponibiliser un grand nombre d'intrants et aussi asseoir un grand nombre de centres et conseils de dépistage volontaire.
Nous avons en ligne Benjamin depuis Isiro, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jédi Kassama.
Votre question, Benjamin.
Oui, ça va. J'ai des questions à poser à notre invité. Premièrement, je voudrais faire savoir, parce qu'on sait bien que la période de l'incubation de sida, ça dure vraiment. Et maintenant, dans cette période-là, si quelque part maintenant s'est dépisté, il fait des dépistages plusieurs fois, mais on ne trouve pas qu'il est infecté. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et deuxième préoccupation, je voudrais faire savoir, si celui-là part maintenant au dépistage volontaire, maintenant, il présente des signes majeurs et des signes mineurs qui prouvent qu'il est déjà en tête de sida. Maintenant, on fait ce test-là, on trouve qu'il n'est pas séropositif ou encore séronégatif. On juste sait quoi.
Docteur Eric.
Ok, merci bien. Il faut savoir que les tests que nous disponibilisons au niveau de centre de conseil et dépistage volontaire, ce sont des tests au fait sérologiques qui, ma foi, n'enlèvent en rien. Vous venez de donner un exemple où la personne présente deux signes majeurs, deux signes mineurs par rapport aux critères de Bangui. Et là, pour un clinicien, un médecin, il faut aller au-delà des tests que nous avons au niveau de CDV. Donc, nous pouvons demander un autre test. Lorsque je suis convaincu que je suis devant une infection à VIH, une rétrovirose, je peux demander d'autres examens. Donc, en fait, les examens que nous avons, ce ne sont pas les seuls examens. Donc, nous pouvons demander une sérologie ELISA. Nous pouvons aller au-delà. Il y a d'autres examens, le Western Blot qui est...
Donc, des tests beaucoup plus approfondis.
Plus approfondis. Nous pouvons faire également checker la charge virale. dont nous pouvons faire cela. Et donc, ce sont des examens qui ne sont pas limités aux simples tests rapides que nous avons au niveau des CDV.
Alors, on peut dire par là, docteur Eric, que le fait de se faire dépister une fois, ce n'est pas une garantie. Il faut encore revenir une deuxième, troisième, quatrième ou plusieurs fois.
Effectivement, il y a la première fois qu'on se fait dépister, généralement, on vous donne rendez-vous pour 3 mois. C'est-à-dire, vous pouvez être pendant la période fenêtre où l'organisme est encore en train de développer. Si vous êtes infecté, l'organisme est en train encore de développer les anticorps anti-VIH. Donc, il faudrait revenir 3 mois après. Et je crois 2 ou 3 examens de certitude, mais sur au-delà de tout comportement à risque, pourraient nous dire de la certitude d'une séronégativité. Mais dans le cas contraire, avec un seul examen, on n'est pas toujours sûr.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous avons en ligne Dalia depuis Matadi et Gaston à Kinshasa. Dalia, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ma question est celle-ci. Je m'adresse au docteur. Docteur, par rapport au comportement à risque qu'affiche la jeunesse aujourd'hui, en RDC précisément, quels sont les préalables pour se faire dépister? Prenons le cas d'un jeune qui a contracté des relations sexuelles 2 jours avant. Est-ce que le 3e jour, le résultat qu'il y aura à voir dans le dépistage sera fané? Et comment est-ce qu'on peut savoir que ce résultat pourra encore être confirmé après?
Ok, merci bien Dalia. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui a contracté prenons un exemple, un rapport sexuel à risque, 3 jours après, avec les tests rapides que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure là, vous n'aurez pas des résultats. Donc vous aurez un résultat qui sera négatif, tout simplement parce que il y a la séroconversion qui est en marche si réellement il était sur un terrain d'infection à VIH. Donc il faudrait attendre 3 mois avant, bien sûr,
c'est ça qu'on appelle, quel autre appelé, période d'incubation.
Période d'incubation ou période fenêtre, comme vous voulez. Donc c'est pendant les 3 mois là que vous pouvez, au-delà de 3 mois, que vous pouvez justement avoir un résultat positif. Mais je l'ai dit encore tantôt, si vous voulez avoir des résultats de certitude, il faudrait aller au-delà des tests que nous disposons au niveau des CDV, donc des tests plus approfondis qui pourront justement dans les jours pendant la séroconversion faire état d'une infection à VIH/SIDA. Et là aussi, je voulais répondre à notre ami tantôt qui a parlé des populations à risque.
Oui.
Comme vous le savez très bien, actuellement, l'épidémie du VIH, c'est juvénilise. Donc, vous avez plus de cas au niveau des jeunes,
les adolescents
et tout ça. Et ça se généralise aussi. C'est-à-dire, on pensait que c'était une maladie des milieux urbains, mais maintenant, ça va même au-delà des milieux urbains, des milieux ruraux. Donc, ça se ruralise, voire même. Et même les populations à risque restent les mêmes. Vous avez les professionnels des sexes, vous avez les miniers, vous avez les camionneurs, toutes ces personnes-là, les hommes en uniforme et tout ça. Et là, ce sont justement des populations qui sont vraiment à risque par rapport à l'infection VIH/SIDA.
Les écoliers?
Les écoliers aussi, parce que ce sont des jeunes qui, justement, par rapport à la pandémie,
étudiants.
Donc tous les jeunes-là sont vraiment des populations à risque.
Gaston nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel.
On vous écoute?
Oui, moi je voulais demander et suggérer au docteur les points suivants. Pourquoi la vie de quelqu'un avant le dépistage est toujours différente qu'après? Quelqu'un peut avoir, il a la maladie, il peut avoir la maladie depuis un moment, mais dès qu'il fait le test et qu'on découvre qu'il a le sida, directement sa vie change, et psychologiquement même physiquement, et même dans la société il est rejeté. Ça c'est un point qui décourage les gens à se faire dépister. Deuxième point. Moi, c'est tous les 2 mois que j'ai fait le dépistage, parce que, bon, avec nos salons de coiffure, j'entre et je doute toujours des gilets avec lesquels on coiffe. Pourquoi on doit concentrer beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour le dépistage, afin que les gens se fassent dépister, au lieu de chercher les médicaments dissidents? Toutes les fois que moi, je vais dans des centres pour le dépistage, je n'ai jamais eu un produit préventif. Mais dès que non, Gaston, ça fait déjà 4 fois que tu viens que le résultat est le même, alors prends tel produit pour la prévention. Moi, je crois qu'ils doivent plus réfléchir à la mesure préventive ou curative qu'assister les gens à se faire dépister. Voilà, je vous remercie.
Docteur?
Oui, merci Gaston. Pour revenir à votre première préoccupation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'infection à VIH, nous mettons effectivement un accent par rapport à la prévention, parce qu'il n'y a pas un traitement curatif de l'infection à VIH. C'est comme ça que la prévention, c'est le seul moyen pour prévenir d'une probable infection à VIH. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, là, dans la prévention, nous le connaissons par rapport au mode de transmission, c'est-à-dire par rapport à la voie sexuelle, nous connaissons les moyens de prévention, par rapport à la voie sanguine, nous connaissons les moyens de prévention, et aussi par rapport à la transmission du VIH de la mère à enfant, nous connaissons également comment faire pour se prévenir de l'infection à VIH. Donc, nous mettons plus cet accent. Mais la communauté universelle est en train de mettre beaucoup de moyens dans le cadre de la recherche d'un traitement curatif. Donc, tous ensemble, nous conjurons nos efforts par rapport à cela. Donc, c'est comme toutes les autres maladies, vieilles maladies comme la tuberculose, ce n'était pas un des quatre matins qu'on avait trouvé le traitement actuellement. Donc, c'est la même chose avec le VIH-SIDA, qui est une maladie récente, hein, 1980 et tout ça. Donc, c'est une maladie récente pour qui, justement, les efforts sont en train d'être mis en œuvre pour trouver un traitement curatif.
Ignace, on nous appelle de Colésie, bonjour.
Bonjour Rudy, bonjour invité.
Allez-y. Bonjour.
Ma préoccupation porte sur le caractère confidentiel du résultat de test.
Oui.
Alors je voudrais dire, est-ce que en gardant confidentiel, étant donné que certaines personnes en abusent et continuent à se comporter comme ils veulent, n'est-ce pas là exposer l'entourage ou la communauté? Alors quelle serait l'attitude des gens informés? Faut-il dénoncer ou
Ok, merci bien. Je crois l'intervenant avant vous avait soulevé ce problème-là. Pourquoi une personne qui est infectée par le VIH-SIDA, avant l'annonce des résultats, il s'est porté bien, et après l'annonce des résultats, vous voyez son état sanitaire s'est dégradé. C'est tout simplement
psychologique aussi.
Comme je l'ai dit, donc le VIH-SIDA a une grande composante à 95% psychologique. C'est-à-dire tout est psychologique, et c'est au-delà même du VIH-SIDA, nous voyons avec toutes les autres maladies, une personne peut développer une maladie psychosomatique tout simplement parce que il se met en tête qu'il est malade. Et là, pour le VIH-SIDA, c'est la même chose. C'est-à-dire avec tout ce qui entoure le VIH-SIDA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement curatif. Une fois qu'on est infecté, on dit peut-être qu'on a bousillé son avenir et tout ça concourt à ce que la personne voit son état de santé se dégrader.
Mais le grand travail, la dépression.
Effectivement, justement, c'est le grand travail que nous faisons au niveau des femmes plus et toutes les autres structures dans la prise en charge psychosociale de ces personnes-là.
Alors, il faut associer des psychologues au travail que vous faites.
Justement, les psychologues sont associés, les agents sociaux sont également associés pour cela. Et alors, par rapport à la préoccupation de tantôt, où on voulait savoir encore comment la personne vivant avec le VIH est stigmatisée une fois que la communauté est au courant des
résultats.
Nous, au fait, par rapport au conseil de dépistage volontaire, ce qui est édicté dans les directives de normes de CDV, il faudrait maintenir la confidentialité. Par rapport à l'annonce des résultats, seule la personne vivant avec le VIH a le devoir d'informer son partenaire ou son conjoint de son statut sérologique. Cela est bien sûr, c'est une disposition de la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées. Donc ça dépend de la personne vivant avec le VIH. Et là, vous posez une autre problématique dans la pénalisation. Quand vous parlez de la dénonciation et tout ça, c'est encore un problème qui est en discussion, parce que pour nous, le fait de pénaliser, de criminaliser une potentielle contamination volontaire, encore faudrait-il matériellement prouver qu'il y a eu contamination volontaire, et aussi avec toutes les implications qui pourraient entraîner la baisse justement du dépistage, parce que beaucoup de gens se diront, mais une fois que moi je serai dépisté, on dira peut-être qu'ils avaient contaminé telle ou telle autre personne, et par voie de conséquence, vous aurez justement des cas comme ça qu'on va emmener au tribunal, qui feront que ça va empiéter même au dépistage de la population restante. Donc, il y a beaucoup de problèmes là-dessus, mais nous nous mettons plus un accent sur justement les valeurs intrinsèques de la personne vivant avec le VIH d'informer de son statut sérologique. Mais ce n'est pas à nous qui faisons le dépistage de parler de son statut sérologique à d'autres personnes.
Il faut toujours le principe de la confidentialité.
Elle doit être préservée.
Voilà. Joël Bongolé, en ligne depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Moi, j'ai fait le dépistage volontaire parce que si au cas où je serais atteint, j'étais même informé à mes proches. Mais le problème, c'est quoi? C'est là, j'ai peur que si tel est le cas, cela ne puisse pas être mécontent ou soit se débarrasser de moi. Alors, qu'est-ce que l'invité peut nous donner comme conseil aux personnes qui, s'ils sont à côté d'une personne vivante avec handicap et qui ne puissent pas l'amener à être traumatisé ou à se déranger?
Ok, merci bien. En fait, le grand problème que nous avons, nous qui sommes agents de terrain, c'est la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Vous avez tout à fait raison. Mais le travail que nous faisons justement dans amener les membres des familles à vivre avec la personne vivant avec le VIH. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils aient suffisamment d'informations sur l'infection VIH. Parce que ce qu'aujourd'hui pourrait amener justement à une stigmatisation ou à une auto-stigmatisation de la personne elle-même, c'est parce que nous avons une insuffisance d'informations sur le VIH-SIDA. Donc une fois qu'on est informé, on sait que manger avec la personne vivant avec le VIH, boire avec le même gobelet qu'une personne vivant avec le VIH, ça ne va pas vous contaminer. Alors à ce moment-là, je crois que la famille, la personne avec le VIH ne sera pas rejetée vis-à-vis de sa communauté ou bien vis-à-vis de son environnement immédiat. Donc le travail que nous sommes en train de faire, c'est celui-là. Informer davantage la communauté par rapport à l'infection VIH et nous aurons moins de cas de stigmatisation. Faites-vous dépister. C'est à vous de voir, parce qu'une fois que vous ferez dépister, vous allez adopter un comportement responsable pour ne pas justement propager la maladie.
Voilà. Il peut arriver qu'une personne, après le dépistage, s'est dit, bon, je suis un séronégatif, donc il n'y a pas de problème, et la personne oublie, et puis elle adopte un comportement à risque, elle continue.
Justement, ça serait un comportement irresponsable, dans la mesure où le dépistage va amener cette personne-là à adopter un comportement responsable, et les personnes sont souvent admis à ce que nous appelons la communication pour le changement de comportement. Et là, tous les conseils sont donnés dans le sens où la personne va adopter un comportement responsable. Et nos centres de conseils de dépistage volontaire, ce n'est pas nécessairement pour les personnes qui, in fine, sont séropositives. Toute personne, toute la communauté peut justement s'adresser au CDV pour avoir toutes les informations nécessaires vis-à-vis de l'infection VIH-SIDA.
Meljan nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Allez-y.
Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir s'il peut y avoir certaines personnes de parler en athée qui ne peuvent pas être infectées du sida.
S'il y a des personnes qui ne peuvent pas être infectées, d'accord.
Bon, oui, en fait, c'est par supposition, scientifiquement, nous n'avons pas des moyens, peut-être en Occident, où vous avez des couples qui sont sérodivergents, sérodiscordants comme on dit. C'est-à-dire, vous avez soit le conjoint ou la conjointe qui est infectée par le VIH et l'autre ne l'est pas. Et là, par supposition, on se dit, cette personne-là ayant vécu ensemble, mais un des partenaires n'a pas pu attraper le VIH-SIDA, peut-être probablement que
c'est les anticorps.
Non, ce n'est pas par rapport aux anticorps, c'est plutôt par rapport à la constitution même de la cellule cible du VIH. C'est-à-dire le VIH, une fois dans l'organisme, s'attaque à une cellule cible, c'est-à-dire la cellule lymphocyte T, CD4, comme on dit, et c'est au sein de cette cellule-là qu'elle va subir sa réplication pour créer d'autres copies virales qui iront infecter d'autres cellules T4. Et ces personnes-là, justement, dans la constitution de leurs cellules, ça c'est toujours scientifiquement dans les suppositions, où cette personne-là n'aurait pas des récepteurs, c'est-à-dire n'aurait pas des récepteurs qui vont permettre justement au VIH de pouvoir pénétrer la cellule T4 et justement faire la réplication. Et une fois que cette cellule, le VIH n'atteint pas la cellule cible, elle reste en dehors et les anticorps peuvent justement régler ces problèmes et cette personne-là ne sera jamais infectée.
Alors, si cette personne va par exemple avoir des relations sexuelles avec une autre personne à l'extérieur qui est infectée, il y a risque.
Il y a risque. Donc, cette personne-là, elle est potentiellement contaminante, elle peut contaminer le VIH-SIDA sans pour autant qu'il puisse développer justement la maladie ou être infectée par le VIH-SIDA.
Voilà, Sidoné nous appelle de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Sidoni.
Oui, je vous poser une question. Je ne sais pas, on a fait quoi lorsque vous êtes pas donc de quelqu'un qui a été infecté par le virus. Et à tout ça.
C'est donné, on vous écoute difficilement. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Ça peut peut-être améliorer la qualité de la liaison téléphonique. Allez-y.
Ok, je dis ça. Quelles sont les questions prendre lorsque vous êtes en face de la personne qui vient d'être veillée à l'hôpital et quel comportement à prendre si vous croyez que la plupart des personnes aussi succès ils sont traumatisés. Quels sont les conseils? Comment vous répétez?
Voilà, c'est donné en haut. Oui, on capte difficilement. Je peux dire qu'elle a dit que j'ai capté quelques bribes. Quelles sont les dispositions à prendre, les précautions à prendre en face d'une personne infectée du VIH/SIDA? Elle a parlé aussi de la stigmatisation.
Ok, quelles sont justement les précautions à prendre par rapport à une personne qui est infectée par le VIH/SIDA? Nous revenons encore au moyen de prévention, c'est-à-dire par voie sexuelle, nous connaissons les différents moyens. Soit il y a l'abstinence, vous vous abstenez d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là, ou soit, vous pouvez utiliser les préservatifs.
Même ceux qui ont des relations homosexuelles. Ils sont exposés.
Justement, les relations homosexuelles sont encore des relations plus à risque que les autres relations, parce que justement la muqueuse anale elle est très fragile et justement facilement vous pouvez être infecté par cette voie-là. Donc il y a ça et bon ou carrément par voie sanguine il faudrait éviter justement de vous passer tous les objets tranchants, coupants, piquants, souillés par cette personne qui est infectée par le VIH/SIDA ou carrément les désinfecter. Il y a beaucoup de désinfectants qui pullulent à travers le marché et tout ça. Et bon, aussi, éviter justement, si vous êtes un homme, d'avoir un enfant avec cette personne-là avant un suivi préalable, tout simplement pour éviter que l'enfant qui naîtrait de cette relation puisse être infecté par le VIH/SIDA. La stigmatisation, comme je l'ai dit encore tantôt, il faudrait vraiment que l'information soit suffisante au niveau de la communauté. Encore faudrait-il évaluer si cette information elle est suffisante pour que justement nous puissions éviter les cas de discrimination.
Voilà, nous allons terminer rapidement avec Junior depuis Kinshasa. Bonjour. Junior, bonjour. Junior, vous êtes en ligne? Voilà, Junior n'est plus là. Alors, docteur Eric Ngango, médecin traitant et assistant technique à Femmes Plus, où faut-il aller pour se faire dépister aujourd'hui?
Aujourd'hui, pour se faire dépister, vous pouvez aller dans tous les centres hospitaliers où il y a un centre de conseil dépistage volontaire. Je crois auprès du PNLS, vous aurez toutes les informations. Et Femmes Plus a également des centres de conseil dépistage volontaire au niveau du camp Kokolo, en Kiringir et où nous sommes.
Et pour celui qui est à Isiro, qui est à Kalimi.
C'est lui qui est à Isiro. Je crois que au niveau, ils peuvent avoir toutes les informations à Kisangani pour voir comment ils peuvent atteindre tous ces centres de conseil dépistage volontaire au niveau de Isiro. Et là, vous pouvez également passer au niveau de la ligne verte Info SIDA Femmes Plus et vous pourrez avoir toutes les informations pour atteindre les différents centres de dépistage volontaire à travers le pays.
Docteur Eric Ngango, je vous remercie.
Ok, merci beaucoup.